RTL Info. Le journal, Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. La fondation Elysium est mise en cause dans un nouveau rebondissement des Dubai Papers. Selon une enquête du quotidien Le Temps, une partie de la fortune de cette entité basée à Neuchâtel viendrait de fonds d'un riche héritier français dissimulé au fisc. Michel Jeanmaire aura participé à 30 récoltes de fonds du Téléthon. Cet ancien sapeur-pompier organise pour la dernière fois la manifestation à Peseux et à Corcelles-Cormondrèche demain. Le HCC a une revanche à prendre. Le club de hockey sur glace Chaufonnier se rend ce soir au Voïbeux pour y affronter le HC Ajoie lors du 4e derby de l'Arc Jurassien en Swiss League. Et il fallait profiter des rayons de soleil de l'après-midi. La météo s'annonce plus nuageuse et plus humide dès ce soir. Des philanthropes aux pratiques douteuses. Une enquête du quotidien Le Temps, publiée aujourd'hui, pointe du doigt les pratiques de la Fondation Elysium, fondée en 1999 à Neuchâtel. Une entité qui a soutenu de nombreux acteurs humanitaires et culturels romands durant plus de 15 ans, mais dont une partie de la fortune viendrait de fonds d'un riche héritier français dissimulé au fisc. À la tête d'Elysium, on trouve la banquière Géraldine Whittaker, considérée après les révélations des Dubai Papers comme la tête pensante d'une nébuleuse de société et de trust nommée Elin. Les précisions de Yann Esler sur ces nouvelles révélations.
Comme le révèlent aujourd'hui nos confrères du Temps, une partie de la fortune de la Fondation viendrait de fonds d'un riche héritier français cherchant à les dissimuler au fisc. La transaction en question aurait eu lieu en 2013, à la fin du secret bancaire. Une famille française disposant d'une fortune de 65 millions de francs doit alors se mettre en règle. En se régularisant, l'État français leur aurait pris la moitié de cette somme. Les héritiers décident alors d'utiliser les services du groupe Elin qui chapeaute le réseau offshore mis en place par la banquière Géraldine Whittaker. Ils auraient versé cette somme à la fondation de manière à remplir toutes les conditions de recevabilité. Mais il est possible de trouver des parades à la législation dans ce cas de figure par l'usage de cartes de crédit prépayées. L'argent de la fondation aurait progressivement été versé au groupe Elin qui gère les comptes d'Elysium comme un honoraire ordinaire. Elin aurait alors disposé de l'argent nécessaire pour renflouer les cartes de crédit prépayées et permettre à ses clients de bénéficier de leurs fonds. Un des héritiers a par ailleurs été engagé comme consultant et rémunéré pour cette fonction. À noter encore que la Fondation a résilié le mandat d'Elin pour sa gestion, ce qui, d'après Le Temps, ne suffira sûrement pas à l'attirer d'affaires.
Et l'enquête ne précise pas les montants qui ont été soustraits au fisc par ce montage financier. Plus d'informations sur rtn.ch. Il était là presque depuis le début. La 31e édition du Téléthon sera la 30e, mais aussi la dernière de Michel Jeanmaire. Cet ancien sapeur-pompier mènera une fois encore demain la récolte de fonds en faveur des personnes souffrant de maladies orphelines dans les communes de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche. Une soupe concoctée par les sapeurs-pompiers sera notamment offerte devant la Migros de Peseux. Michel Jeanmaire a choisi cette édition anniversaire pour se retirer de l'organisation et redevenir simple bénévole dès l'an prochain. Il revient sur les débuts de ses engagements.
Lorsque j'ai commencé, la toute première année, c'était en 1988 que mon ami Pierre-André Bercier a fait sa première animation devant l'ancien hangar du service du feu. Ils n'étaient que deux pompiers à l'époque. Et moi, je suis parti en 1989 avec lui. On n'était également que deux devant la Migros. Et après, gentiment, il m'a confié le bébé. Et puis, on a décidé d'agrandir ça. Donc, à l'heure actuelle, maintenant, on travaille quasiment avec près d'une centaine de personnes sur les trois postes auxquels on a. Donc, je dois faire appel pour se faire non seulement aux anciens sapeurs-pompiers mais également aux Samaritains de la Côte et Boudry. Et puis nous avons également des politiciens qui viennent nous donner un coup de main ainsi que des bénévoles. Ça permet justement de pouvoir combler les trous et puis d'avoir du monde en permanence sous les trois postes que nous animons.
RTN sera par ailleurs en direct de la rue de l'Hôpital à Neuchâtel demain de 10h à midi dans le cadre de ce 31e Téléthon. Jeux de cubes, jeux de vie, c'est le nom que porte la prochaine balade littéraire organisée à la Chaux-de-Fonds par l'association 1000 mètres d'auteur. Le public a rendez-vous le 15 décembre à l'Esplanade pour une promenade à travers le dédale de ce quartier relativement jeune, inauguré en 1994. À cette occasion, trois comédiens liront des textes d'Odile Cornu, de Fanny Wobman et d'Yves Robert. L'ancien architecte communal Denis Clerc sera également de la partie pour dispenser quelques informations sur ce quartier atypique de la métropole horlogère. La formule attire à chaque balade jusqu'à 120 personnes. Isabelle Meyer, membre de l'association 1000 mètres d'auteur.
Ça permet de tirer beaucoup de gens parce qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés soit par les lectures elles-mêmes, par les textes ou les auteurs qu'on lit, soit par le quartier qu'on va visiter. Et tu as des gens complètement différents qui viennent. Et ce qui est surtout intéressant dans ces balades, c'est que comme au départ, il y avait toute une série de personnes, entre guillemets, plus ou moins âgées. Et petit à petit, tu as plein de jeunes qui se collent à ces balades parce qu'ils se sont dit, ah ben tiens, ça peut être aussi intéressant de découvrir notre ville autrement et de découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas.
Le rendez-vous pour cette balade littéraire à l'esplanade à la Chaux-de-Fonds est donc fixé à 14h au bas du quartier le 15 décembre. Des images d'animaux au moulin de Bayrel, Johan Beaufetier et Alain Prêtre présentent une cinquantaine de clichés ce week-end et le week-end prochain dans ce site du Val-de-Rue. Des clichés pris dans le Jura neuchâtelois, mais aussi en Islande. Les deux photographes animaliers exposent des photos d'espèces exceptionnelles réfugiées dans les forêts profondes du Jura neuchâtelois, comme le lynx, la gélinotte des bois ou encore la chouette nordique. Ces amoureux de la nature et des animaux se rendent également régulièrement en Islande, deux régions qui, de prime abord, n'ont pas vraiment de lien. Alain Prêtre.
C'est un choix plus sentimental que rationnel que nous avons voulu faire à travers cette exposition thématique, dans la mesure où notre région de prédilection, c'est effectivement le Jura, mais nous avons eu un grand coup de cœur pour l'Islande et on a voulu associer les deux, quoi. Sachant aussi que ce sont deux terres qui subissent quand même des conditions météo assez dures, assez féroces. Et puis, l'autre point commun, c'est qu'elles nous offrent des paysages d'une sévère beauté.
Pour vous, la photo, le cliché, il se mérite.
Tout à fait. C'est un dur métier que la photo animalière. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut à la fois bien connaître les mœurs des animaux qu'on convoite, hein, et parfois donc les affûter sous tente dans des conditions compliquées, hein, de froid, de mauvais temps, de vent, et puis c'est pour autant pas gagné, même si on a pris toutes les précautions, parce que finalement l'animal il décide de son destin, de son programme quotidien. Donc ça demande beaucoup de persévérance, il faut y aller, y retourner, c'est pas évident, mais c'est ce qu'il faut aussi de charme de la photo animalière.
Alain Prêtre donnera par ailleurs une conférence demain soir à 18h30 sur le thème de l'effondrement de la biodiversité avec des exemples locaux. La nouvelle devrait réjouir les consommateurs et les entreprises. Le Conseil fédéral souhaite supprimer les droits de douane sur toute une série de produits industriels, comme les voitures et les appareils électroménagers. Le gouvernement a mis un projet en consultation en ce sens jusqu'au 21 mars prochain. Cette réforme devrait priver la Confédération d'une manne de 500 millions de francs, mais doit permettre de lutter contre l'îlot de cherté que constitue la Suisse et fait suite à de nombreuses interventions de parlementaires. L'accord institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne existe, mais rien n'est signé. Bruxelles a mis fin aux négociations et le Conseil fédéral a pris acte cet après-midi du document dont il veut encore discuter avec les milieux concernés, les commissions parlementaires compétentes. La Suisse a par exemple obtenu gain de cause sur l'interdiction pour les poids lourds de rouler la nuit. Il n'y aura pas de reprise automatique du droit européen, mais une actualisation qualifiée de dynamique. Président de la Confédération, Alain Berset, s'est entretenu tout à l'heure avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. On écoute Alain Berset.
C'était l'occasion pour nous de constater que les choses avaient avancé, qu'il y a toute une série de points, et c'est réjouissant, sur lesquels il n'y a plus de divergence et sur lesquels nous sommes à l'intérieur de notre mandat. L'Union européenne a aussi fait son travail, mais qu'il reste des points sur lesquels des divergences subsistent et pour lesquelles nous souhaitons réaliser une consultation. Donc j'ai eu l'occasion de l'informer aujourd'hui. Et c'est donc un entretien qui a eu lieu dans un très bon esprit et de nous permettre d'envisager la suite de nos relations sur une base qui est positive.
Certaines lignes rouges qu'avait fixées le Conseil fédéral ont toutefois été franchies, ce qui fâche Vania Aleva, la présidente du syndicat UNIA.
Il y a le délai d'annonce, il y a la partie qui concerne les cautions et il y a tout le droit européen qui devrait être repris et donc les salaires ne pourront plus dans le futur être protégés de manière autonome. La Suisse ne pourra pas décider de comment protéger leurs salaires et cela est inacceptable pour nous.
Un dossier réalisé par Jérôme Favre. Le Conseil fédéral laisse par ailleurs planer le suspense. Le gouvernement n'est pas encore parvenu à se mettre d'accord sur une répartition des départements après l'élection mercredi des deux nouvelles conseillères fédérales, Viola Amert et Karine Keller-Souter. Les discussions reprendront la semaine prochaine. La France redoute de violents débordements à l'occasion du prochain rassemblement des Gilets jaunes prévu demain. 28 cocktails Molotov et 3 bombes artisanales ont été découverts aujourd'hui dans le Tarn et Garonne, dans un campement des manifestants qui protestent depuis bientôt un mois contre la perte de leur pouvoir d'achat. Le procureur a ouvert une enquête. À Paris, un dispositif sécuritaire de grande envergure est prévu, avec l'utilisation notamment de véhicules blindés. En Allemagne, les délégués de l'Union chrétienne démocrate, la CDU, ont fait leur choix. Ils ont élu cet après-midi Annegret Kramp-Karrenbauer à la tête du Parti conservateur. Celle-ci remplace la chancelière Angela Merkel, qui aura occupé ce poste durant 18 ans.
RTN, il est 18h11.
Sport. Le HCC entend retrouver une attitude conquérante, opposée au HC Ajoie pour le quatrième derby de la saison de Swiss League. Les hockeyeurs chaudefonniers espèrent prendre leur revanche ce soir. Battus 4-1 à la maison par les Jurassiens lors du dernier match, les Abeilles se rendent au Voibeux dans la peau du leader pour cette 26e journée du championnat. Et pour ce match qui démarre à 20h, le HCC devra composer sans Raphaël Herbe, Enzo Guebe, Gaëtan Augsburger, Sacha Volgast, Jérôme Monnet, Christophe Baïs. Puis après un petit passage à vide, le HCC a repris du poil de la bête en dominant Langenthal lors du match au sommet, sans toujours jouer de manière éblouissante. Le défenseur du HCC, Arnaud Jacquet.
Il y a des matchs où on n'est pas vraiment satisfait de nous et on aimerait élever notre niveau comme on était en début de saison. C'est clair qu'après il y a eu la pause et après cette pause on était peut-être moins conquérant, moins dominant et ça tournait moins de notre côté. Donc voilà, mais maintenant c'est clair qu'il y a aussi des très très bons matchs comme le dernier match contre Langenthal. On a réussi à revenir. On sait que c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Aussi même la défaite contre Holton chez eux, c'était des gros matchs. Et maintenant je pense qu'on remonte de nouveau un peu comme en début de saison et c'est clair que c'est toujours bien de gagner même si c'est pas forcément dominé 100%.
Vous avez l'impression que pour cette saison, la mentalité, elle a peut-être un tout petit peu évolué par rapport aux dernières saisons?
Oui et non, je pense qu'il faudra voir aussi en play-off, hein, parce que je pense que l'année passée en championnat, on était présent, même il y a 2 ans. Donc voilà, après les play-offs, c'est un autre championnat, donc il faudra voir aussi à ce moment-là. Mais actuellement, je pense que oui, comme je l'ai dit, l'ambiance était excellente et on a aussi des bonnes recrues. Donc voilà, je pense qu'on a tout pour bien faire et c'est clair qu'avec ce 100e, la motivation est d'autant plus importante.
Des propos recueillis par Yann Esler. Le club fête en effet ses 100 ans l'an prochain et HCA-HCC, c'est donc ce soir à 20h et en direct sur RTN dès 19h45. Et puis on joue aussi en deuxième ligue. Le HC Star, qui est actuellement 3e au classement, va affronter HC Porte du Soleil dès 20h45. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Yann Moulinier en Coupe d'Europe de bobsleigh à 2. À Altenberg en Allemagne, le chaudefonnier et son coéquipier Marco Tanner n'ont pas terminé la deuxième course disputée aujourd'hui. Hier, le duo avait pris une encourageante 9e place pour sa première course. En volleyball, le NUC affrontera Kanti Chafouz en 8e de finale de la Challenge Cup. Ce sera le jeudi 20 décembre à la Riveraine. Le club du littoral a communiqué via les réseaux sociaux que ce match aller 100% suisse devrait commencer à 20h dans la salle neuchâteloise. La Coupe du monde féminine de ski alpin fait son retour en Europe et même en Suisse. Elle s'arrête ce week-end dans la station de Saint-Moritz. Un super G est au programme demain, alors qu'un slalom parallèle sera disputé dimanche. Les Suissesses entendent bien briller dans les grisons. Les précisions de notre envoyé spécial Mathieu Schaffner.
Saint-Moritz a laissé de bons souvenirs, de très bons même, dans la tête des skieuses suisses. Souvenez-vous, il y a une année, elles ont fêté un doublé sur cette piste avec la victoire surprise de Yasmine Flory en Super G devant Michel Guizine. Quelques mois plus tôt, lors des championnats du monde, elles avaient glané 4 médailles. Tous les espoirs sont donc permis pour ce week-end, à commencer du côté de Michel Guizine. L'Obvaldienne a fait le plein de confiance la semaine dernière au Canada en décrochant 2 podiums en descente à l'Éclouise. Elle rêve de fêter son premier succès en Coupe du Monde devant son public. Et puis Ragout Berami est aussi attendue dans la station Grisone. Décevante de l'autre côté de l'Atlantique, la Ticinoise doit montrer une réaction. Elle n'a obtenu qu'un top 10 depuis le début de l'hiver. La neige suisse pourrait peut-être lui permettre de retrouver le sourire.
Un super jet donc au programme demain à 11h15 à Saint-Moritz. Dimanche, place au tout nouveau slalom parallèle. En ski alpin, la Fédération internationale enquête sur l'Allemand Stefan Luitz. Le récent vainqueur du géant de Beaver Creek aurait inhalé de l'oxygène entre les deux manches de la course, une pratique interdite. En juin 2016, la Fédération avait décidé d'interdire l'utilisation de bonbonnes à oxygène en compétition, un point spécifié dans son règlement antidopage. Et puis encore un mot de football, l'équipe de Suisse disputera son deuxième match des éliminatoires de l'Euro 2020 contre le Danemark à Bâle le mardi 26 mars. La sélection nationale aura lancé sa campagne trois jours plus tôt à Tbilissi, en Géorgie.
Merci Sonia. Le point sur la météo.
La météo avec les bains de la Gruyère à Charmey, un espace de bien-être dans un site exceptionnel.
Les nuages ont fait leur retour, les précipitations devraient suivre tout prochainement. Ce sont les prémices d'une dégradation pluvieuse qui arrive sur notre région ce soir et cette nuit. Au programme, fortes précipitations, rafales de vent et une limite de la neige qui va passer en dessous de la barre des 1000 mètres d'altitude. Au programme, demain, un temps encore très nuageux avec de fréquentes averses. La limite de la neige oscillera entre 800 et 1000 mètres d'altitude, maximum de 8 degrés attendus en pleine, 3 sur les hauteurs. Ce même type de temps est attendu dimanche également, mais avec une limite de la neige qui va remonter vers 1400 mètres en journée avant de redescendre vers 1000 mètres en soirée.
La météo avec les bains de la Gruyère à Charmey. Spa, massage, offrez-vous une pause bien-être. Lesbainsdelagruyère.ch.